Chapitre 51. Charco avait préféré rentrer chez lui à pied plutôt que d'emprunter le métro. Il n'avait pas le courage de Florence qui avait décidé d'enchaîner sur une soirée au millionnaire. Lui avait ressenti le besoin de prendre l'air, de s'oxygéner et surtout d'aller se coucher. La goutte d'or et ses démons. Dire qu'il ne vivait qu'à 20 minutes de marche de cet îlot de misère dont il portait encore sur lui l'odeur de craque et de crasse. Ce soir-là, dans le squat, il avait vu à quoi ressemblait l'enfer. Zéphirin et les autres toxicomanes n'étaient plus que des créatures lugubres, délaissées pour compte. Tout le monde se fichait d'eux, même les flics. Stalingrad, Jaurès, leur horde de noctambules, d'immigrés, de paumés qui paraissaient errer sans but. Les sacs de couchage contre les murs au pied des immeubles dans ce froid à pierre fendre. Le Paris des démunis. Troublé, le jeune inspecteur n'arrêtait pas de regarder derrière lui. Il avait la sensation qu'une ombre le suivait. Il traversait, bifurquait, accélérait et ralentissait, mais bien sûr, il n'y avait personne, hormis ses propres fantômes. Rue Armand Carrel, avant d'attaquer la rue de Meaux. Franck n'arrivait pas à se sortir de la tête les yeux fous de l'haïtien, penché au-dessus de lui dans la cage d'escalier. Cette écume blanche au bord de ses lèvres, et les mots terribles prononcés par sa bouche malade. « Elle va emprisonner ton âme. » Il avait raison d'une certaine façon. Charco pensait à l'enquête, ou plutôt aux enquêtes, jour et nuit. Même sous la couette, même quand Suzanne lui caressait le dos, même dans son sommeil, tout le temps. Il saisissait de mieux en mieux les confidences que le glaive lui avait faites lors de sa première autopsie. Personne ne pouvait supporter ce quotidien, mais on apprenait à vivre avec. Son immeuble, enfin. La chaleur bienfaitrice du hall d'entrée. Il jeta un œil dans sa boîte aux lettres, grimpa les deux étages d'un pas lourd, se faisant la réflexion qu'il n'avait toujours pas repris la course à pied depuis son affectation au 36. Il allait falloir se remotiver, retrouver une hygiène de vie convenable, tenter de garder un équilibre s'il ne voulait pas sombrer dans la mauvaise bouffe et l'overdose de travail. Le kebab baignant dans le gras lui pesait encore sur l'estomac. Clé dans la serrure, main sur la poignée. Il entra, ôta son blouson et se précipita vers le télécopieur. Le fax quotidien de Suzanne l'y attendait. Son crack à lui. Lui ai remis ma démission. Ça a été, tu t'en doutes, un moment difficile pour lui comme pour moi, mais il comprend parfaitement la situation. Que ne ferait-on pas pour se rapprocher de l'être qu'on aime? Franck se passa la langue sur les lèvres. Il ressentait des fourmillements désagréables tout autour de la bouche, comme après une anesthésie chez le dentiste. Était-ce à cause de la brusque différence de température avec l'extérieur? Il se replongea dans sa lecture, essayant de rester concentré. J'espère que ton petit circuit te plaît. L'as-tu déjà installé? Je t'imagine bien allongé sur le parquet, en train de contempler la locomotive tourner avec tes yeux d'enfant. Puisses-tu toujours avoir ce regard-là, mon chéri? Je t'aime comme tu es. Ne vieillis pas trop vite, s'il te plaît, et ne laisse pas ton métier t'accaparer. Il y a d'autres choses importantes dans la vie. Ce serait dommage de t'en priver. Je t'aime. Écris-moi. Sa main qui tenait le fax tremblait. Il ne pouvait rien faire pour la contrôler. Que lui arrivait-il? Lorsqu'il reposa la feuille, il remarqua l'infime tache rouge sur le papier, à l'endroit où se trouvait son pouce droit. Il observa alors sa paume. Rien, pas de blessure apparente. Il pressa sur le bout de son doigt et fit éclore un bouton de sang. En se positionnant sous le lustre du salon, il découvrit finalement des surbrillances, un peu partout, même sur ses phalanges. Comme des paillettes incrustées dans sa peau, d'infimes morceaux de verre. Un signal d'alerte résonna dans son crâne. Sa langue s'assécha. Des picotements gagnaient désormais ses extrémités, ses bras, ses jambes. Une vague de panique l'envahit. Il se rua vers sa porte d'entrée, l'ouvrit et examina la poignée ronde extérieure. Les éclats étaient là, agrippés au métal, perdus dans des traces minuscules de poudre blanche. Décharge d'adrénaline. Dans la fraction de seconde qui suivit, il s'élança dans son salon pour attraper son téléphone, mais s'écroula sur le flanc gauche, comme si on lui avait fauché les deux jambes. Dans sa chute, il renversa une étagère. Le cri qu'il essaya de pousser resta coincé dans sa gorge. Il ne parvenait déjà plus à déglutir ni à remuer une paupière. Les sons en lui s'estompaient. Le bruissement du sang dans ses artères, la circulation de l'air dans ses poumons, les battements de son cœur ralentissaient. Son esprit, en revanche, tournait à plein régime. Une hypervigilance abominable qui lui donnait envie de hurler, de contracter ses doigts sur les lames du parquet jusqu'à s'en casser les ongles. Il était une âme piégée dans un bloc de chair inerte qui, par un simple réflexe de survie, respirait encore. Une proie offerte, impuissante. Paralysé, Frank comprenait avec un degré élevé de conscience ce qui lui arrivait. La tétrodotoxine pénétrait son organisme, en colonisait chaque cellule nerveuse. Une silhouette se dessina au bout de la pièce, une masse qui sembla surgir du néant. Des couleurs dansaient autour d'elle, des vêtements amples venus des îles. Les chaussures en cuir passèrent dans son champ de vision, disparurent sur la gauche sans qu'il puisse accompagner le mouvement. Le grincement des gonds de la porte dans son dos. Des murmures, des instructions. Elle, la Beaucorps, parlait à des hommes qui entraient chez lui. Le parquet grinça également et Frank distingua deux paires de bras qui installaient une caisse en bois devant lui, du genre de celle trouvée dans la porcherie abandonnée. « Non, non, non !» gueulait-il intérieurement de toutes ses forces. Il vit les faciès hargneux de ses bourreaux, des blacks d'à peine 20 ans, des gamins, capuches foncées, grosses chaînes autour du cou, survêtements. Ils l'arrachèrent du sol par les poignets et les chevilles, un poids mort qu'ils déposèrent dans le compartiment, les jambes tendues, les bras le long du corps, l'arrière du crâne à plat, la position du mort. Une fois leur mission accomplie, ils reculèrent en silence. Un autre visage apparut alors, une vision effrayante dans une nuit de cauchemar, de grands anneaux dorés s'agitant aux oreilles tels des attrape-rêves, des yeux comme des gouffres qui l'attiraient dans une chute sans fin. Des mots crachés des lèvres charnues, semblables à une giclée de clous. « Je vais te voler ton âme !» Elle s'adressa d'un ton sec aux deux jeunes. Une planche glissa, une lame de guillotine qui coupa la lumière, pour ne laisser place qu'à l'obscurité la plus profonde.